Sébastien Grenache, président Café Saint-Henri. Ça va?
Ça va bien, toi?
Très bien. Tellement content d'être là avec toi aujourd'hui.
Content de te recevoir à notre bureau chef.
Là, pour ceux qui écoutent, je suis en train de prendre un bon petit latte, un petit dirty chai pour être précis. Quel accueil! Vraiment super chanceux d'être là. Peux-tu peut-être nous parler un peu de toi, rapidement, parce que ça pourrait être long.
C'est nouveau, tu dis président de Café Saint-Henri, mais c'est tout nouveau, ça fait seulement 9 mois. Parcours atypique, Jean-Thomas, j'ai commencé là, quand même près de plus de 20 ans en entreprise où j'ai créé une compagnie de production télévisuelle, gradué en journalisme. Il y a 5 ans, j'ai vendu cette compagnie-là. Et puis là, je regardais les autres opportunités d'affaires. Puis là, un an, Café Saint-Henri est tombé à vendre. C'est que le propriétaire, le fondateur à l'époque, Jean-François, a communiqué avec moi pour dire, regarde, selon ton type d'entrepreneur, bien, je pense que tu serais la prochaine relève pour Saint-Henri. Fait qu'on on a évalué le dossier. Ça a pris quand même un an, cette transaction-là. Et un an plus tard, bien, je suis très fier de dire que je suis le président de Café Saint-Henri. Jean-François a fait un travail remarquable à amener ce mouvement-là qui est le café de spécialité au Québec. Ça a été quand même le premier à créer le café de spécialité. C'est que j'héritais d'une compagnie avec un brand très fort, une notoriété dans le milieu qui était extraordinaire. Il a quand même été capable de créer 8 succursales à l'époque. C'est que tu sais, quand Jean-François m'a appelé, je viens pas de l'industrie du café, je venais pas de l'industrie de la restauration, mais qu'est-ce qui avait amené comme entreprise était fantastique. C'est que j'ai sauté dans l'aventure et nous voilà 9 mois plus tard.
Tu parles de café de spécialité, on parle aussi de third wave coffees.
Ouais.
C'est quoi ça, tu sais, pour ceux qui nous écoutent là? Tu sais, comment tu peux le résumer là, sommairement?
C'est très simple. Aussi, il ne faut pas confondre les termes. C'est que dans le café, on est rendu à notre troisième vague. Première vague, pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est vraiment ce que nos grands-parents buvaient, là. Folgers, du café noir, etc. Ça, c'est la première vague. Deuxième vague qu'on a eue dans notre industrie, c'est des grandes chaînes, les Starbucks, les McDo, etc. Qu'est-ce qui catégorise vraiment ces deux entreprises-là, ces deux vagues-là de café? C'est que les gens achetaient un café qui était correct et ils torréfiaient foncé. C'est-à-dire qu'ils brûlaient tout le goût un peu du café, ce qui est tout à fait normal à cette époque-là. Puis là, à un moment donné, il y a une autre vague qui est arrivée pour dire « Hey, le café, c'est un fruit. Il y a des propriétés à l'intérieur du fruit qu'on peut exploiter davantage. »
On oublie ça que c'est un fruit.
Exact, c'est une cerise. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut amener ces propriétés-là à l'intérieur du fruit qu'on a avec une cuisson qui est différente. T'sais? Et là, le third wave est arrivé. C'est qu'on achète un café qui est supérieur, et on le torréfie d'une façon qui peut rendre les lettres de noblesse au produit. Mais après ça, c'est que tu as le café de spécialité, tu as le café third wave. Third wave, ce que ça veut dire, c'est juste un café qui est indépendant. C'est que tu as des cafés third wave qui ne sont pas des cafés de spécialité. Ça veut dire qu'ils peuvent vendre du café comme les brûleries ou quoi que ce soit. Tu as du café third wave qui sont du café de spécialité, comme Café Saint-Henri, ou qu'on utilise le meilleur café ou qu'on achète le meilleur grain de café, la meilleure cerise. Et on a une équipe ici en torréfaction qui est un peu de la science, Jean-Thomas, qui, selon l'altitude, le pays, etc., va essayer de créer la courbe de torréfaction de ce produit-là pour qu'elle soit la meilleure. C'est pour ça que nous, dans Café Saint-Henri, on n'aura pas une torréfaction qui va être foncée. Parce qu'on ne veut pas aller à brûler le produit. On veut vraiment exploiter toutes les saveurs naturelles du produit. Fait qu'on a une conscience au niveau de l'achat, c'est-à-dire qu'on a une conscience au niveau du fermier, on a une conscience au niveau du travail qui a été fait à la ferme. C'est pour ça qu'on achète un café, notamment, qui est un petit peu plus cher. Puis ici, quand il est importé dans nos locaux, au niveau de la torréfaction, bien, mon directeur de la torréfaction dit « OK, comment que je peux rendre ces lettres de noblesse-là à ce produit-là? Comment que je peux essayer de maximiser le produit? » Puis ça, c'est du essai et erreur. Mmh. Puis plus qu'on a quelqu'un qui est spécialisé dans la torréfaction comme chez nous, avec Nicolas qui est notre directeur de la torréfaction, bien, plus qu'il y a moins d'erreurs, puis plus qu'on est capable de trouver la courbe rapidement, tu sais, la saveur, parce qu'il y a différents types de procédés. C'est grosso modo, c'est ça. C'est vraiment l'industrie qu'on veut redonner les lettres de noblesse au produit. Comme un peu la vague du vin a eu, comme un peu la vague de la bière a eu, mais là, on est rendu à la vague du café.
Hmm. Puis toi, t'arrives là, en rachetant cette compagnie-là, il y a...
9 mois.
Ouais. Et là, Saint-Henri, maintenant, juste peut-être pour conclure cette contextualisation-là, vous avez 9 cafés, dont un à Québec.
10-30.
Voilà aussi. Vous avez une compagnie d'importation,
ouais.
bientôt de distribution.
Ouais.
Vous êtes dans les supermarchés.
Ouais.
Fait que là, on est ensemble aujourd'hui pour parler d'intrapreneuriat. Parce ouais. que j'ai devant moi un entrepreneur en série, là. T'sais, pis c'est pour ça que je pensais à toi aussi, parce que là, c'est un cours en entrepreneuriat dans le domaine de l'accueil. Fait que c'est large, hein? On passe des transports, de l'aéroport, mais les cafés, troisième vague, cafés indépendants, fait partie quand même de l'ADN de Montréal aussi. T'sais, ça nous démarque
ouais.
comme capitale, peut-être du café éventuellement ouais.
Mais Tourisme Montréal a un point de service sur notre succursale à Jean Talon.
OK.
Il y a des autobus, quand ils vont au marché Jean Talon, ils passent par le café Saint-Henri.
Bon, fait que c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN de Montréal. Fait qu'il y a clairement un lien avec le tourisme.
Ouais.
Beaucoup de gens, et j'en suis, fait partie de mon expérience de touriste, c'est de m'asseoir sur une terrasse, boire un third wave dans ouais. un café indépendant, peu importe dans le monde, puis ça me permet de comprendre un peu le code de la ville. T'sais.
Totalement, mais il y a maintenant du tourisme de café. C'est qu'il y a des gens qui voyagent à travers le monde, soit en Australie, en Californie, même ici, comme les gens vont... avec les vendanges ou en France ouais. ou pour les vignobles, mais maintenant, ça commence ce tourisme-là pour les cafés. Ils sélectionnent leur third wave, ils sélectionnent leur café, ils sélectionnent leur brand, puis ils veulent aller les visiter.
Moi, ma femme, c'est clairement ça, juste entre toi et moi. Je veux dire, on va dans une ville, par exemple, si on est en Europe cet été, puis ben quand on va dans une nouvelle ville, ben elle va sur Instagram, puis elle check les hashtags third wave de la ville.
Exact.
Puis on planifie notre journée en fonction de ça, tu sais.
Mais à Montréal, Thomas a créé une application qui s'appelle Third Wave, qui est pour ça, qui sélectionne les third wave proches géolocalisés. Fait qu'il y a vraiment de quoi qui est en train de se créer alentour de cette nouvelle vague-là.
À tous les étudiants qui nous écoutent, il faut vraiment checker cette appli. C'est incroyable. Même, vous êtes même au Mexique, même, non?
Le Thomas avec ouais, Third Wave, ouais. Ouais, surtout au Canada, partout.
Incroyable. Fait que là, maintenant, c'est pour ça que je voulais qu'on se parle aujourd'hui, intrapreneuriat. Puis je pense que les deux, on parle beaucoup, ça pourrait être vraiment long. Fait que tu sais, on va essayer d'être vraiment avec des mots-clés, puis précis. Puis quand on parle d'intrapreneuriat pour toi, Café Saint-Henri, groupe Café Saint-Henri, ça sonne quoi pour toi dans ton esprit, intrapreneuriat? C'est-tu important? C'est-tu contextuel? C'est-tu le bon moment?
Mais... si c'est pas par rapport à l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est par rapport aux employés qui sont à l'intérieur. Que ça soit dans ma compagnie de production, que ça soit dans ma compagnie de café, l'entrepreneuriat ou l'entrepreneur est important dans le bon fonctionnement d'une entreprise. Avant, c'est un nouveau terme là, qu'on a. Avant, c'était un entrepreneur, puis il y avait des employés, puis l'entrepreneur avait tout le risque. L'entrepreneur pensait les décisions, etc. Puis il était redevable à ses décisions. C'est-à-dire, quelles que soient bonnes ou pas bonnes, ben, ils les assumaient. Mais aujourd'hui, il arrive avec une vague, quelle que soit l'industrie, où ce que c'est des gens qui veulent aussi avoir une entreprise, qui veulent qu'ils se démarquent ou qui ont une vision de l'entreprise différente, puis qui veulent amener ça au sein du groupe. Puis ça, c'est pour moi, c'est l'entrepreneur. Mais par exemple, ils ne sont pas prêts à prendre tous les risques de l'entrepreneur, et financiers et décisionnels, mais par exemple, ils peuvent amener une valeur ajoutée. C'est que ce comportement-là d'entrepreneur, quelle que soit l'entreprise, c'est sûr et certain que chaque entrepreneur recherche ça. Avant, on appelait ça des leaders, tu sais. Mais un leader, c'est pas nécessairement un entrepreneur, puis un leader, pas nécessairement un gestionnaire. Tu sais, c'est galvaudé comme terme pour moi. Mais si on reste juste dans la définition de l'entrepreneur, pour Café Saint-Henri, c'est primordial. Comme maison d'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est cette personne-là qui va être à nos côtés, c'est cette personne-là qui va être capable d'amener une entreprise différente, cette personne-là qui va être capable d'amener des idées supplémentaires. Puis en tant que toi, l'entrepreneur, bien, il faut que tu donnes le terrain à ces personnes-là pour qu'ils puissent réaliser leurs idées, pour qu'ils puissent réaliser ce qu'ils ont en tête. Pourquoi? Pour le bienfait de l'entreprise, non pas de la personne. C'est-à-dire qu'on a la même idée, on a la même vision, on a la même courant, une même énergie, puis, mais lui, il n'est pas prêt à prendre 100% les restes de l'entrepreneur, ce qui est tout à fait normal, ce n'est pas tout le monde qui peut l'être. Mais il veut amener un plus-value à l'entreprise. Puis ça, c'est important dans notre réseau. Là.
Puis présentement, ça fait 9 mois que tu es en poste. Ouais. Donc là, tu commences à comprendre un peu la culture, la vibe. Clairement, c'est quelque chose qui demande du temps.
Ouais.
L'intrapreneuriat jusqu'à présent, parce qu'on pourrait se reparler dans 2 ans, peut-être que ce serait différent, mais pour le moment, si je comprends bien, c'est plutôt tes employés, tes collègues qui viennent te voir avec leur vision, parce que c'est un bon timing pour eux aussi. T'as racheté l'entreprise, ça apporte un souffle nouveau. T'arrives, toi, avec du capital, avec des contacts, avec une belle énergie, tu sais. qui fait du bien. Donc, pour l'instant, c'est plutôt down top les projets intrapreneuriat ou toi, tu arrives, tu cibles quelqu'un puis ça va être ton projet. Non, comment ça marche?
C'est deux choses, puis tu l'as bien mentionné, Jean-Thomas. Tu sais, présentement, il faut faire une évaluation RH de l'entreprise. Puis il faut qu'on soit ouvert. Quand on acquiert une compagnie, la première chose qu'on fait, on appelle notre plan de 90 jours. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place dans les trois premiers mois. Tu peux rien changer, tu peux rien faire. Tu peux juste écouter, absorber, puis analyser.
Quel conseil incroyable que tu viens de dire, ça.
Ouais. Puis une fois que tu as fait ça, là, tu es capable après ça d'arriver dans ton autre plan, qui est ton plan de déploiement. C'est-à-dire, OK, je vous ai écouté, je vous ai entendu. Maintenant, voici ce que je pense faire, puis où qu'on va avec l'entreprise. Puis c'est pour ça que le premier temps, il faut que les employés, puis un entrepreneur d'aujourd'hui, il faut qu'il soit à l'écoute, puis il faut qu'il soit au même niveau que l'employé. Puis c'est là que l'employé va bien se sentir. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas vrai que chaque personne est identique. Puis avant, puis quand on parle avant, c'est tombé 15-20 ans, un employé, c'est un employé. C'est une mentalité différente. Aujourd'hui, l'employé vit des émotions totalement différentes. Aujourd'hui, on parle de l'anxiété, on parle de l'angoisse, on parle du stress qu'il y avait peut-être avant, mais moins. C'est qu'il faut qu'on soit à l'affût de ces gestes-là, à l'affût de ces comportements-là de nos employés. Puis notre but, c'est de les encadrer. C'est pour ça que cette période-là d'écoute est très, très, très importante. Puis après ça, on est capable de transformer ça dans un plan de déploiement. Puis c'est là qu'on est capable de cibler qu'est-ce qu'on a entendu avec nos joueurs clés pour dire, OK, t'avais ça, ben voici ton projet. T'avais ça, voici ton projet. Tu voulais ça, qu'est-ce que t'en penses de... Puis à partir de là, eux autres vont être capables de plus onboarder l'entreprise, puis vont être capables de vraiment, je dis, donner leurs ailes. T'sais. C'est qu'avant, quand il y a une soupape ou quand t'es sous quelqu'un, ben tu peux pas déployer au maximum tes ailes. Tandis que là, avec l'entrepreneur, que t'as bien écouté, que t'as bien ciblé, ben c'est là que t'es capable de donner. Moi, mon rôle, c'est de donner tous les outils nécessaires pour que l'employé puisse vivre de ses rêves à l'intérieur de mon entreprise.
Ça, j'espère
c'est,
que...
C'est ça l'important, tu sais.
Ceux qui nous écoutent, là, faites pause en ce moment, revenez 15 secondes derrière, puis réécrivez exactement la dernière phrase, de donner tous les outils pour qu'il puisse vivre son rêve à l'intérieur de l'entreprise. C'est pas n'importe quel président qui aurait dit ça, là.
Ben merci, c'est très flatteur de ta part, mais sauf qu'aujourd'hui, puis il faut pas que ça soit galvaudé. C'est un... Daniel Henkel m'a toujours dit, parce que j'ai eu la chance de la côtoyer, de partir d'une entreprise avec elle, qui est une ancienne dragonne, une personne influente au niveau du Québec Inc., présentement une personne fantastique. Elle m'a toujours dit, tout seul, ça ne vient pas d'elle, mais elle ne me rappelle plus de la personne, mais c'est elle qui l'incarne. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Puis ça, c'est important. Parce que plus vite, tu peux faire des erreurs. Oui, tu vas atteindre tes trucs, mais tu vas être tout seul. Tu n'auras rien établi. Tu n'auras pas créé de valeur, ce qui est la base de l'entreprise pour moi. C'est créer des valeurs. Créer une valeur. Tandis que si on se met en groupe, si on se met ensemble, en équipe, bien c'est là qu'on va beaucoup plus loin. Puis c'est ça que tu veux. En tant qu'entrepreneur, moi, tu veux laisser un leg à quelqu'un. Tu veux pas juste que ça soit court et que ça soit fini. Tu veux comme passer le flambeau et dire « OK, go, vas-y, c'est à toi maintenant. » Puis c'est pas nécessairement de dire OK, tu as tout le rôle à 100% de l'entreprise, puisque tu peux pas nécessairement avoir cette vision-là en tant qu'entrepreneur. Mais l'entrepreneur peut t'amener à te dépasser, puis amener l'entreprise à avoir une meilleure valeur.
Mais pour toi, comme président, est-ce que c'est un défi ou c'est en toi le fait de donner de l'autonomie à ton staff? Parce que pour toi, comme président, tu sais, t'es sûrement pas dans les opérations, c'est pas toi qui vas faire le café là, aux clients, quoique, on sait pas. Tu sais, peut-être
je fais pas le café, mais je fais l'emballage.
C'est
maintenant.
C'est ça.
On est clair. Mais aujourd'hui, j'emballe.
Mais est-ce que pour toi, c'est un défi, tu sais, si tu as un paradoxe, un dilemme de donner l'autonomie, finalement, qui vient avec le fait que tu contrôles pas nécessairement tout le temps?
C'est une évolution. Au début, okay. Tu sais, puis aussi tu vieillis. Au début, hey, quand tu commences une entreprise, tu veux tout contrôler.
Ouais.
Pourquoi est-ce que tu dis « c'est mon entreprise, c'est moi » Puis à un moment donné, tu fais comme « OK, c'est bon. » Avant, j'étais très micromanagement. Tu sais. Puis ma femme, je vais toujours me souvenir, dans mon ancienne entreprise, on a envoyé un courriel à un gros client. Puis c'est que j'ai demandé à quelqu'un, une de mes directrices à l'époque, de me lire le courriel qu'elle fait. Je suis comme « OK, mais non, écris ça. » Ma femme qui est en ressources humaines, elle me regarde dans l'auto, elle dit « qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, à un moment donné, tu l'as engagé. Tu fais-y confiance. Il ne faut pas juste aller dire le nom. Puis là, je fais, OK, ça, tu sais, ça a le computé. Puis, mettons, 10 ans plus tard, aujourd'hui, où tu vieillis, tu fais ce qu'il y en est. Tu es capable de balancer les erreurs. Tu es capable de balancer l'impact qu'avant tu n'étais pas capable d'analyser. Puis aujourd'hui, tu es capable de dire que la plus grande force d'un entrepreneur, c'est de savoir bien déléguer le projet. Puis quelqu'un qui est capable de bien déléguer n'importe quoi, un projet, un dossier, n'importe quoi, c'est là qu'il va être capable d'être à son meilleur. Puis c'est là qu'il va avoir plus d'espace dans sa tête pour faire croître l'entreprise, qui est le but. Tandis que si tu es trop micromanagement, tu n'as plus d'espace, tu n'as plus de temps pour bien faire ce que tu dois faire. S'assurer que le personnel est heureux, s'assurer que le personnel est en sécurité chez vous, puis après ça, comment tu fais pour croître l'entreprise. Une entreprise, ça a un cœur puis un poumon, c'est comme un humain. Fait que si tu mets tout sur les opérations puis tu oublies le développement, ça ne marche pas. Tu as besoin d'un cœur, tu as besoin d'un poumon. Fait que c'est la même affaire. Fait que ça, c'est ton rôle en tant qu'entrepreneur. C'est que plus que tu as d'entrepreneurs, plus que tu as des gens qui veulent prendre en charge des projets, plus que tu es capable de balancer entre ton cœur puis ton poumon, entre tes opérations puis ton développement d'affaires.
T'as combien d'employés chez Saint-Henri?
On est à peu près une centaine.
Une centaine quand même? Ouais. Puis, il y a combien d'entrepreneurs que tu serais capable de cibler, là? Peut-être que je te pogne un peu off-bound, là, mais tu sais, y a-tu des acteurs clés en ce moment que tu es capable de dire, ouais, ça, c'est des entrepreneurs, c'est des intrapreneurs?
Présentement, je pourrais te dire qu'à peu près au moins 5-6 personnes qui sont des intrapreneurs.
OK.
Donc, c'est ça, ouais, au moins 5-6.
Donc ça veut dire que ben si on se reparle dans un an ou deux, ben il va avoir peut-être
je vais avoir plus de temps à t'allouer.
Ouais, c'est ça. Puis l'entreprise va ben, c'est ça parce que si tu es capable de cibler 5-6 intrapreneurs, c'est que 5-6 projets potentiels en plus.
Ouais.
C'est-tu un
mais j'ai déjà fait, pour donner un exemple, quand j'ai rencontré tous les employés au début, mon gestionnaire de succursale à Québec, Guillaume, première rencontre, il dit, tu sais, moi, j'ai un projet, j'ai acheté un restaurant mobile. Puis il dit, je veux le tourner en café mobile.
Ça, c'est lui qui dit ça, là.
Ouais, okay. C'est lui qui dit ça. Ben, c'est parfait, c'est le fun. Je dis, ben, si je peux t'aider, que ce soit financièrement, personnel, ou t'aider, si tu veux des conseils au niveau de l'entrepreneur, fais-moi signe, ça va me faire plaisir. J'ai juste ça comme ça, puis moi, je reviens à Montréal, il me réécrit le soir, tu sais, il dit ça, il dit, merci de ton écoute, merci de me supporter dans mon projet, tout ça. Tu sais, c'est un employé qui a donné énormément pour Saint-Henri. C'est une personne qui reste dans l'industrie puis qui me dit à moi qu'il veut ouvrir un coffee truck. Tu sais, je fais quoi? Je dis, ben, va-t'en, puis fais-le. Ou je dis, ben, OK, moi, je peux t'aider puis te garder proche puis m'assurer que ça fonctionne bien. Et pour lui, qui a donné énormément à Saint-Henri. Fait que ça reste comme ça. J'ai une rencontre avec le groupe Oxford qui détient entre autres 10-30 plusieurs centres commerciaux au Québec. Puis elle me dit, on aimerait ça avoir Saint-Henri au 10-30. Puis là, je suis comme, ouais, mais je veux pas avoir le local. Mais je dis, si vous êtes prête de faire un copilote, je pourrais installer un coffee truck. Elle dit, t'en as un?
Ça a commencé, ça.
Elle dit, ouais, elle dit, t'en as un? Je dis, ah oui, j'en ai un. Fait qu'elle dit, OK, c'est bon. Fait que j'appelle Guillaume. Je dis, Guillaume, c'est ton projet de coffee truck, là. Si je te l'amène au 10-30, ça te tente-tu? Il dit, ah ben ouais, c'est parfait. Je dis, tu restes propriétaire. On le fait un partenariat ensemble. Je te paye toutes les rénovations que ça prend pour l'amener. Je te délaisse de la succursale pendant un mois et demi parce qu'il voulait faire l'autoconstruction. Tu fais ton autoconstruction, je te paye les matériaux, je te paye tout. On monte un mois et demi un coffee truck. Puis il a été aujourd'hui tout l'été au 10-30. Puis les gens de la Rive-Sud ont tellement été contents d'avoir un café de spécialité en Rive-Sud. Mais le propriétaire, c'est avec moi, c'est mon gestionnaire de Québec.
Puis si on prend ce projet-là, c'est exactement ça que je vais te poser comme question. Tu as comme lu dans mes pensées, mais c'est quoi le next step de ce petit projet, entre guillemets petit, 10-30? Est-ce que l'été prochain, ça revient pareil? Ouais. Est-ce que là, peut-être un local? Est-ce que tu peux dire que ce projet-là a été pérenne pour Saint-Henri au final?
Il y a deux choses quand tu dis pérenne. Pérenne au niveau RH,
puissance
100%.
Ouais.
Pourquoi? Parce qu'en plus, Guillaume s'est entouré de gens qui étaient des baristas à Québec ou des anciens baristas qui avaient gradué. Exemple, le designer. Exemple, le plombier. Exemple, l'architecte. C'est que tout ça, c'est des anciens employés de Saint-Henri ou même encore des employés de Saint-Henri qui ont construit à 100% le coffee truck. Ça veut dire que RH, c'est extraordinaire. Puis quand Guillaume, il était en train de faire la rénovation, ben c'est l'équipe qui a pallié à Guillaume qui n'était pas en succursale. C'est-à-dire Caroline, qui est l'assistante gérante, qui est là, ben elle a fait plus d'heures pour pallier. C'est que toute l'équipe s'est réunie pour faire. C'est pour ça, je vais toujours te dire oui, c'était pérenne parce que c'est extraordinaire. Après ça, c'est d'autres choses au niveau. Ouais. Mais tu ne vois pas juste sur 4-5 mois d'opération. C'est qu'on, on est en train de le voir où qu'on pourrait l'installer en hiver, où qu'on peut le faire.
En tournant, sans peut-être.
Tout ce qu'il y en est avec Guillaume. C'est que, tu sais, ça reste vraiment un truc où dire. Parce que mon but, c'est de dire aussi dans l'industrie du café, chez Café Saint-Henri, tu peux faire une carrière. Ça, c'est mon rôle. Puis ça, c'est pas nécessairement des intrapreneurs, mais c'est de dire tu peux faire une carrière dans l'industrie du café. Étant la structure organisationnelle de Café Saint-Henri, je peux me permettre d'avoir des employés qui peuvent rêver d'une carrière de café puis leur faire dire « OK, chez nous, c'est possible. Chez nous, c'est possible d'acheter du café. Chez nous, c'est possible de tarifier à l'année. Chez nous, c'est possible d'avoir des relations avec la clientèle. Chez nous, c'est possible d'avoir du marketing. » Fait que c'est ça qui est important.
Et ce projet-là, c'est aussi... Puis c'est clair que c'est de mon point de vue, mais c'est aussi une vitrine pour toi, ce projet-là. C'est un exemple concret que tu peux dire à ton équipe, regardez, c'est possible de faire des projets un peu out of the box chez nous. Là.
Amenez-moi un projet.
T'as ta vitrine très
là. Ouais. Mais tu le fais jamais pour ça, Jean-Thomas. Tu le fais jamais. J'ai pas pensé à ça.
Okay.
Moi, j'ai pensé à une opportunité au niveau de 10-30, puis Guillaume qui avait un rêve, puis les mettre ensemble. Après ça, collatéralement, oui. C'est sûr et certain. À un moment donné, il faut que tu fasses ce que tu dis aussi. Là. C'est-à-dire que si tu reçois tous tes employés, puis tu leur dis « amenez-moi des projets », puis tu dis toujours non, mm-hmm. À un moment donné, ils vont faire comme moi, ils en parlent beaucoup, mais ils n'agissent jamais.
Ouais.
Tandis que là, effectivement, où ils savent parler, puis on a agi, puis ça a fonctionné.
T'sais, tu parlais tantôt de leader, de gestionnaire, d'entrepreneur. Y a-tu pour toi des skills, des compétences, ou peut-être une personnalité que tu recherches, ou c'est tellement différent selon le projet? Y a-tu quelque chose là-dessus que tu pourrais partager?
Ça dépend aussi de où tu te trouves dans l'entreprise. Dans mon comité de direction, je dis toujours, quel que soit votre poste, c'est-à-dire mon directeur des finances versus mon directeur marketing versus mon directeur de la torréfaction versus ma directrice des achats, quand on est au comité de direction, son directeur de rien, son directeur de Café Saint-Henri, de l'avancement de tout le monde. Puis si mon directeur marketing qui est en voyage présentement puis qui a vu de quoi de meilleur ailleurs, puis une tarification différente ou un produit différent, mais il peut confronter ma directrice des achats. C'est qu'au niveau du board de direction, tu veux avoir des gens qui sont capables d'amener des opinions, puis capables de débattre, puis capables de me challenger moi. Comme je dis tout le monde, on est tous égaux ici, là. Il n'y a personne. Mais à un moment donné, s'il faut trancher, je vais le trancher. Mais sinon, il faut challenger jusqu'au bout, parce que là, on n'est en train pas de penser de notre nombril, puis du moi, mais du bien collectif de l'entreprise, puis de nos clients.
Ouais.
C'est qu'à partir de là, j'ai tout le temps, laissez l'ego chez vous, puis quand vous rentrez en comité de direction, il faut qu'on élève le skill. C'est que ça se peut que vous avez fait de quoi de mauvais ou bien, on va le féliciter. Puis si vous faites quoi de mauvais, bien, on va le rattraper ensemble. C'est que c'est sûr et certain que pour mon comité de direction, qui sont peu, il faut que j'aille des gens qui sont capables quand même d'amener des visionnaires puis de supporter une équipe. Après ça, il y en a qui sont plus relationnels. Ils vont être moins des leaders, mais sauf que quand tu veux ici en service client, tu n'as pas besoin d'un leader qui revendique les trucs. Tu as besoin de quelqu'un qui est à l'écoute, qui est capable, qui est serviable, etc. C'est que ça dépend dans l'entreprise où il y en est. Par exemple, mon rôle, c'est de bien sélectionner par rapport aux forces puis diminuer leurs faiblesses au niveau de la charge de travail.
Puis ça, comment tu fais ça? Je te coupe ça, mais ouais. Pour diagnostiquer les forces, quoi, c'est plusieurs rencontres, c'est dans tes 80 jours d'écoute? C'est day-to-day?
Oui, c'est à un moment donné, c'est d'être présent dans ton entreprise.
Ah,
tu sais, puis je pense que j'ai une force, j'ai beaucoup de faiblesses, mais j'ai une force et je cache rapidement qui est devant moi. Puis c'est ça aussi, être à l'écoute, aussi visuel. Puis j'ai toujours été comme ça, là. Tu sais, c'est... Moi, ma mère, quand on avait les rencontres de parents au primaire, elle disait, « Sébastien, il parle beaucoup, mais il est capable de suivre la conversation à gauche, il est capable de dire qu'à droite, elle s'est mouchée 5 fois. » Puis, tu sais, j'ai un sens de tout ça. Fait que c'était mauvais à l'école, mais aujourd'hui, ça me rapporte. Pourquoi? Parce que là, je te parle, mais je sais qu'il y a 3 fois la porte qui va être là, je sais ce qui se passe en bas. Fait que j'ai une vision quand même d'entreprise. Puis ouais. Ça t'amène à dire, OK, quel type de personne tu as devant toi? Puis quand je parlais tantôt de l'anxiété, de l'angoisse, etc., il faut qu'en tant que gestionnaire, tu es cible. Fait qu'à partir de là, c'est que tu es casse dans des endroits, puis qu'après ça, tu regardes, puis tu as l'écoute d'eux, puis tu fais « OK, regarde ça, t'aimes pas ça? Parfait, fais-les pas. On va trouver quelqu'un qui aime ça, puis on l'a. » Ou sinon, c'est diminuer dans la charge de travail le pourcentage des gens, le pourcentage de la charge de travail qui est moins. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va être un tu sais, ça va être bénéfice pour deux, pour l'employé, pour nous deux et pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que quand tu fais qu'est-ce que tu es bon à faire, tu es valorisé. Puis quand tu es valorisé, tu as un travail positif dans ta tête, l'anxiété, le stress diminue. Quand tu te challenges pour faire quelque chose que tu aimes moins, tu te back, le stress augmente, tu vas faire plus d'erreurs, l'anxiété, le stress. Quand, c'est prouvé, quand tu travailles sur pensée positive, dépassement de soi, automatiquement ton stress diminue et ton anxiété est faite. Le dépassement de soi, comme tout le temps, c'est de faire l'effort de plus. C'est de dire, OK, le poste que tu es, c'est un poste que tu n'as pas gagné à la loterie, là. On te l'a offert parce qu'on sait que tu as les compétences pour. C'est qu'amuse-toi. C'est qu'une fois que tu t'amuses, une fois que tu te dépasses, tu es fier, tu as un sentiment d'accomplissement, puis tu vas vouloir faire le step de plus parce que tu n'auras pas peur. Quand tu fais ce que tu n'aimes pas, puis tout ça, tu ne voudras pas le faire, tu vas faire souvent plus d'erreurs. Là, c'est une boucle qui part. C'est qu'en tant que gestionnaire, c'est de bien répondre à ça, à cette demande-là des gens, de bien les comprendre, puis après ça, les cibler. Puis après ça, de dire, OK, toi, tu es un leader, mais je vais t'en donner plus. Toi, tu ne l'es pas, mais je vais te donner ton terrain de jeu que tu es à l'aise, puis que tu es bon. Toi, tu es un entrepreneur, bien, viens me voir, puis on va créer des trucs ensemble. Mais en tant que gestionnaire, en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas les mettre toutes à la main, puis tu ne peux pas exiger à tout le monde d'être comme toi, de penser comme toi. Mais par exemple, tu peux créer un terrain de jeu à tous ces gens-là pour qu'ils excelle. Puis toi, tu vas être capable d'aller plus loin, plus rapidement. Puis c'est ça le rôle d'un entrepreneur. C'est de dire, OK, t'excelles là-dedans? Parfait, on va te trouver de quoi. Sauf que des fois, ça va te coûter plus cher. Des fois, ça va être un employé de plus. Puis là, tu le vois juste en tant que chiffre, mais tu le vois pas en tant que retombée. C'est que ça se peut que pendant un an ou quelques mois, tu vas être en perte. Parce que tu vas avoir mis en place de quoi qui est pour pallier à des erreurs des gens, mais pour qu'eux performent dans leur travail. Mais avant qu'eux performent et qu'il y ait un résultat, ça peut prendre du temps. Mais c'est là qu'il faut que tu mettes en place tous ces trucs-là si tu veux aller. Mais là, je te parle à cause j'ai 100 employés. J'en ai 5, c'est une autre philosophie. Oui. C'est une autre business. Oui. Mais c'est ça qui est le fun aussi de Café Saint-Henri, c'est que je suis capable d'amener cette vision-là. Puis c'est ça que tu fais où que les employés après sont comme « OK, chez Saint-Henri, je suis capable d'amener là. OK, j'ai une idée, il est ouvert. » Ou « Moi, j'ai pas d'idée, je veux faire ma petite job, mais je me sens bien dans ma petite job puis je donne mon 100%. »
C'est tellement intéressant de t'écouter, Sébastien, parce que, tu sais, ça, c'est le premier podcast. Il va en avoir d'autres, tu sais, au courant de la session. Là, on parle avec un président, entrepreneur, gestionnaire, tu sais, peu importe le chapeau. J'imagine que tu es dans ces 3-4 chapeaux-là toujours. Puis dans d'autres podcasts, on parlera à des intrapreneurs, tu sais, qui vivent. Fait que là, ça va être intéressant. Vision, exactement. Tu sais, quand tu parles depuis le début de donner des outils, de parler avec tes employés, tu sais, souvent, ça me fait penser à cette fameuse phrase de « c'est quand la dernière fois que tu parlais à un de tes clients pour vrai, pour comprendre ce qu'ils vivent ». On peut le flipper avec « c'est quand la dernière fois que tu parlais avec ton employé pour vrai, pas juste pour l'évaluer, tu sais, à chaque 3 mois, là. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que tu as profité des premiers 90 jours pour vraiment être en mode écoute. Puis là, ça rapporte aujourd'hui. Tu sais.
Ouais.
C'est ça que je trouve fun.
Puis moi, j'ai un grand réseau. C'est juste ça ma faiblesse. Parce que j'ai un grand réseau. Là, on parle puis on est au QG, au quartier général.
Ouais.
Mais j'ai 9 autres succursales avec des employés. Là. Pendant qu'on se parle, il se passe plein de choses.
Ouais, c'est ça.
Mais je ne suis pas là. C'est que c'est là où c'est que tu vois qu'il faut mettre en place les bonnes personnes qui véhiculent ma même philosophie, qui, eux, vont être un vecteur de changement. Sinon, on ne changera jamais le plancher. Parce qu'ils n'ont pas le rapport direct à ce que tu vois avec les employés qui sont ici, puis qui rentrent dans mon bureau, puis qu'on se parle, puis qu'on échange. Puis moi, la porte est tout le temps ouverte avec n'importe qui. Tu viens chez nous pour une requête, la personne rentre, puis on parle business, ça ne me dérange pas. Puis
Et d'ailleurs, c'est la preuve, hein, je te coupe, mais je t'ai écrit, tu me dis let's go, passe me voir, puis tu sais, t'es comme ça, puis boum, ton staff m'accueille un café, puis on discute, là, tu sais.
Non, mais
on parle depuis 2 heures d'ailleurs, hein, vous le savez pas, guys. Là, si vous écoutez, on a été off record pendant genre 1h30 avant. Puis ça m'a permis de rencontrer entre autres Eric, tu parlais tantôt de Guillaume avec son projet. Il y a Eric maintenant au niveau de l'académie. Je vois quand même des traits de personnalité là, qui semblent se rejoindre. Donc, Guillaume, que je connais pas, mais de la façon dont tu m'as parlé, Eric, qui est très entreprenant. Y a-tu quand même un ou deux traits de personnalité qui, toi, te fait triper en disant OK, ouais, lui là, ou elle, là. Ouais, je sais que le dossier va avancer, tu sais.
La seule trait... Moi, j'ai rencontré le staff récemment, puis je leur ai dit 5 points. Le respect.
OK.
La confiance en soi.
Oui.
Le dépassement de soi. Respect. Puis après ça, au niveau... Puis après, je pourrais les décortiquer rapidement, mais bref, respect, dépassement de soi, l'équité.
OK, oui.
Parce que ça aussi, c'est important. Puis la performance. Hein. Puis la performance dans un sens que ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Puis après ça, il ne faut pas... Performance puis agilité. Moi, j'ai une entreprise en mode agile. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je ne check pas les heures. Mais par exemple, si tu me dis que tu livres tel projet, telle date, puis il faut que tu couches tous les soirs ici, mais tu couches ici tous les soirs.
C'est très start-up. Hein? C'est très vibe, gestion de projet, quoi. Ouais. Très.
Oui, mais moi, je me dis que c'est ça que je donne aux employés. C'est quand tu me dis, quand tu cibles mon métier, il faut qu'il y ait ça. Il faut que tu respectes, puis il faut que tu comprennes le travail de l'autre. Parce que si c'est juste toi, puis tu ne comprends pas l'autre, ça ne marchera jamais. Ouais. Parce qu'on travaille un effet domino. Fait qu'il y a ça qui est important. Après ça, respecter ton client, respecter ton personnel, puis respecter l'entreprise. Quand l'employé n'a plus confiance en l'entreprise, il y a une cassure. C'est qu'il faut qu'on trouve, puis comment qu'on se parle. Le dépassement de soi, c'est exactement ce qu'on dit. Faire le truc de plus. C'est qu'une fois que t'as, pour moi, tu as ces cinq valeurs-là, ben tu rentres dans mon cercle, puis après ça, tu peux faire ce que tu veux. Mais dès que tu bifurques de ça, puis le respect est en premier pour moi, c'est là que je crains un peu des dents, tu sais, parce que ça marche pas.
Mais ça, c'est intéressant que tu dises ça, Sébastien, parce que, tu sais, on pourrait parler encore 3 heures, là, tu sais, mais parce que, tu sais, en fait, depuis le début, peut-être ceux qui nous écoutent, c'est comme, waouh, c'est trippant, c'est envie, on peut faire ce qu'on veut, mais finalement, non. Pas pantoute. Il y a quand même quelque chose de super important pour toi, c'est la rigueur.
Oui.
D'avoir du fun, tu sais.
Confiance en soi, rigueur, dépassement de soi, respect.
Exact. Donc, tu sais, t'arrives pas avec un cahier de charge, des procédures, de... t'arrives avec ces 5 éléments-là que tout le monde peut comprendre, qui ne demandent en fait aucun talent.
Mm. Non, c'est soft skill.
Exact.
Soft skill.
Et c'est vraiment intéressant, donc...
Mais la base pour moi, là, c'est de connaître le travail de l'autre. Parce que tu peux pas respecter ton collègue si tu penses, ah, mais lui, c'est facile, sa job.
Ah ouais?
Ouais, c'est facile, sa job. Fais-la pendant une journée.
On est allé tantôt.
Tu diras, c'est facile. Ouais.
Pour exemple. Peser les poches de café. Ouais.
Ça doit être facile de faire du café avec un torréfacteur. C'est la job la plus dure. Mais si toi, tu penses, ouais, mais il regarde son ordinateur journée, puis non, tu comprends pas. Installe-toi là. C'est-à-dire que quand tu as des clients commerciaux, là, puis qui ont commandé en retard, puis là, tu pousses lui à faire ça, tu comprendras pas que lui. Il ne peut pas rentrer dans la machine ta quantité, etc. Puis quoi que ce soit, tu vas comprendre l'embûche de pourquoi. C'est que tu vas pouvoir mieux répondre à ton client. Même chose dans tous les postes. Ça a l'air simple de faire un café. Quand il y a 15 personnes qui attendent en ligne, puis il faut que tu donnes un service hors pair, là, je peux te dire que la goutte de sueur, elle commence.
Ouais.
Mais il ne peut pas botcher ton café parce que toi, tu es unique. Mais si toi, tu penses que c'est facile de faire du café, mais bonne chance, va te mettre dans un rush, dans une des succursales, là, tu vois, tu vas les respecter en tabarouette.
Ouais.
C'est que c'est ça quand je te dis de respecter, de comprendre l'autre. Une fois que tu as compris l'autre, tu es capable de faire ta job. Puis je ne veux pas me répéter, puis je l'ai dit à mon conseil, mais tout le monde, c'est respect, puis aussi, qui est un peu l'ego, j'aime pas ça. On fait toutes des erreurs, puis on pense tout pour l'entreprise. Même moi en premier, je pense pour l'entreprise. Je pense pas pour un bien de Sébastien ou pense de Jean-Thomas, c'était un employé. Je m'en fous de ton bien à toi personnel. C'est qu'est-ce que t'apportes dans quelque chose qui est plus gros, qui s'appelle l'entreprise. Puis là, ensemble, on a un bateau qui peut... C'est comme une équipe de hockey. C'est comme les Canadiens, pour faire référence cette année. Personne n'est venu en série, mais ils ont joué en équipe. Puis ils sont tenus en équipe. Puis il y avait une fusion d'équipes qui ont été capables de battre les meilleurs. Puis c'était pas les meilleurs. Puis c'était les underdogs. C'est la même affaire. Si tu es capable de créer une équipe soudée qui travaille pour la même affaire puis qui se respecte puis qui se comprenne, n'importe quoi devant toi, tu vas pouvoir l'apporter. Tu as besoin des entrepreneurs, tu as besoin des leaders, tu as besoin des employés qui veulent juste faire ce qu'ils veulent puis les accepter. Puis qui lui veut juste puncher à 4 heures. Et c'est correct. Parce que lui, c'est ça. Mais par exemple, quand il est ici, il a donné son maximum. Puis c'est ça le poste gestionnaire. Donner des terrains de jeu à tout le monde selon leur caste, des écouter, des comprendre, puis donner les meilleures personnes dans les meilleurs postes avec les meilleurs outils puis les meilleurs process. Puis une fois que tu as ce trio-là, tu vas être capable d'amener, d'après moi, tu vas être capable d'arriver à tes fins ou à ta vision d'entreprise que tu as partagée à tes employés.
Fait que ceci est un podcast, mais c'était surtout un masterclass d'un visionnaire, en fait. Puis je me sens très chanceux d'avoir passé ces... maintenant presque 35 minutes avec toi. Sébastien, c'était tellement intéressant. Puis je m'en allais te demander peut-être de terminer avec un conseil, mais ce n'est que conseil sur conseil depuis tant d'autres que tu donnes, puis c'était vraiment intéressant. Mais as-tu peut-être un petit mot de la fin, peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui peut-être ne sont pas encore dans le mindset entrepreneur ou entrepreneur? Peut-être qu'il y en a qui le sont en ce moment, qui nous écoutent, qui ont peut-être déjà même une compagnie, mais...
Ah, le but, là, c'est quoi? Rêver. C'est juste rêver, puis travailler pour obtenir vos rêves. Puis moi, quelqu'un qui est fade, quelqu'un qui n'a pas de rêve, qui n'a jamais appris à rêver, a un impact, a un casque. Mais quelqu'un qui dit, c'est quoi ton rêve? C'est quoi? Puis comment tu l'as fait pour aller le chercher? Ça part de là. C'est ton rêve d'avoir une entreprise, vas-y. C'est ton rêve d'amener un projet au sein de ton entreprise. Va voir ton patron, quoi que ce soit, puis fais-les. Puis il n'y a rien qui peut passer. Madame Henkel, Daniel, elle disait toujours, si ça ne passe pas dans la porte de garage, je vais passer dans la porte. Puis si ça ne passe pas dans la porte, je vais passer dans ses rues. Il y a toujours une façon d'amener ton projet, soit à l'écoute de c'est qui ton interlocuteur, puis regarde comment que je pourrais passer mon idée. Puis à la base, ça prend de rêver. Si ça ne te tente pas d'être entrepreneur, mais tu veux voyager, tu fais-le. Si ça te tente d'être un entrepreneur, va proposer tes idées. Puis si ça te tente d'être un entrepreneur, vas-y. Il ne faut pas que tu te butes à l'argent, au projet, à tout. Parce que là, tu n'es pas dans une pensée positive, puis là, l'angoisse, le stress va y aller. Regarde toujours le côté positif. Continue à amener tes rêves, puis tout va arriver. Comme je te l'ai dit tantôt, j'ai un parcours atypique. Je viens de la production télé. J'ai gradué en journalisme. Puis aujourd'hui, j'ai une entreprise de café. Puis si tu parles à mes employés ou à mes partenaires, je pense pas qu'ils me jugent quoi que ce soit. Ils ont du fun de travailler avec moi, puis on est capable d'amener. Pourquoi? Parce que j'ai des rêves, puis je veux les amener avec moi dans cette énergie-là, puis dans cette vision-là de l'entreprise. N'importe qui. Fait que rêver.
Sébastien Grenache, merci pour ta générosité. Ouais, ceux qui nous écoutent, merci, merci. Un conseil pour terminer, visitez Saint-Henri. Allez voir les cafés Saint-Henri. Vivez l'expérience Saint-Henri, vous allez voir, c'est trippant. Merci tout le monde d'avoir écouté.